présente Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et député européen. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron était aujourd'hui à Valenciennes sur le thème de la vaccination. Je vous propose de l'écouter.
Maintenant, le cœur de la bataille sur les prochaines semaines et les prochains mois, ce sera la vaccination. Matin, midi et soir, je peux vous dire... Je serai mobilisé, le gouvernement sera mobilisé. Nous avons des doses qui ont été qui étaient dues, qui n'ont pas été honorées. Et donc les prochains jours seront un combat pour essayer de, au maximum de les obtenir, poursuivre la pression de manière extrêmement forte et que ces contrats soient honorés.
Voilà, poursuivre la pression sans doute pour effacer les couacs de ces derniers jours. Pourquoi, selon vous, un tel retard à l'allumage? Quelle est votre explication à vous?
C'est bien, Emmanuel Macron, il devrait se présenter à l'élection présidentielle, puisque il fait un certain nombre de constats. On dirait qu'il est chef de l'opposition, il oublie, je crois, qu'il a les manettes. Que la France a accumulé un retard considérable aujourd'hui et que chaque dose de vaccin qui n'est pas approvisionnée, qui n'est pas livrée dans les vaccinodromes, auprès des médecins, auprès des pharmaciens, c'est une entreprise de plus qui va mettre du temps à redémarrer. Je pense que nous avons un double problème. Il y a d'abord un problème français qui est celui de la perte de notre souveraineté. La France est le seul pays de l'industrie pharmaceutique à ne pas avoir de vaccin quand toutes les grandes puissances et notamment tous les pays du Conseil de sécurité de l'ONU on peut se doter d'un vaccin, et un problème évidemment européen.
Vous pensez que c'est un problème de souveraineté? Parce que, est-ce que c'est pas plutôt un problème de chercheurs qu'on paye pas très bien?
C'est un problème de souveraineté qui vient de la baisse constante depuis maintenant plusieurs années, depuis 20 ans, dans la recherche publique. Les chercheurs aujourd'hui en France, ils passent plus de temps à chercher de l'argent qu'à faire leur travail. Et le problème dans notre pays, c'est qu'on importe beaucoup de bac-5, mais on exporte tous nos bac+10. Le PDG d'AstraZeneca, le PDG de Moderna, ce sont des Français. Donc on a tout le génie, on a tous les talents pour réussir en France. Mais on voit bien que par le sous-investissement constant dans la recherche, nos chercheurs s'en vont et ça pose un problème de souveraineté. L'Institut Pasteur, moi je vais pas m'acharner sur l'Institut Pasteur. Mmh. L'Institut Pasteur, c'est 300 millions d'euros de budget annuel. Moderna a eu 5 milliards d'euros pour rechercher un vaccin. Donc on voit bien que ce sous-investissement, il a des conséquences concrètes en matière d'autonomie, d'indépendance. Et puis il y a un problème européen. L'Union européenne est aujourd'hui coupable d'un Waterloo vaccinal. On voit bien qu'ils ont été totalement incapables de négocier les bonnes doses, les bonnes quantités, dans les bons délais, et que des pays qui vaccinent massivement, y compris d'ailleurs sur qui appartiennent au continent européen, comme la Grande-Bretagne, qui en est en tout cas le voisin, ont pu vacciner déjà près de 27 millions de Français, oui. Quand nous, on patauge difficilement à 3% de la population.
Mais il n'y a pas que des grandes puissances qui ont développé des vaccins. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, Cuba est en train de mettre au point plusieurs vaccins. Et c'est un pays dont l'économie est tout de même assez difficile. Oui. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est aussi une question de volonté, aussi une question de priorité?
Ah, je pense que l'enjeu de la prochaine présidentielle sera de refaire de la France un grand pays puissant, avec une stratégie industrielle efficace, basée sur le patriotisme économique. Et vous avez raison de souligner que des pays, y compris plus petits que le nôtre, on nous dit souvent, mais tout seul dans la mondialisation, on ne réussira pas, on a besoin de la Commission de Bruxelles, on a besoin de la technocratie européenne, s'en sortent mieux. Le Chili a vacciné beaucoup plus massivement, beaucoup plus vite que la France. Des pays de 9-10 millions d'habitants, comme Israël, ont pu déjà vacciner très très largement et ont pu rouvrir il y a quelques jours encore leur restauration, leur café, leur bar, leur restaurant, réunir de grands événements. Et cette crise, elle a en tout cas, je crois, d'abord validé une grande partie des analyses que nous faisons depuis des années sur les délocalisations de nos entreprises, sur l'ouverture à outrance de nos frontières, notamment en matière économique, et sur le grand déclassement de la France, dont beaucoup de nos concitoyens qui pensaient que la France avait un système de santé extrêmement puissant, ont vu qu'en réalité, les politiques d'austérité qui ont été menées ont amené à la tiers-mondisation de notre
pays.
Est-ce
que le président de la République ou l'exécutif a une responsabilité parce qu'au début de l'épidémie, ils se sont calés sur l'idée que les Français étaient hostiles au vaccin, et c'était vrai. C'est vrai. Est-ce que ça a été une erreur d'après?
Parce que du coup, on en a moins commandé. Surtout à cause de leurs mensonges. Enfin, je veux dire, c'est eux qui ont menti depuis le début, c'est eux qui ont alimenté ce climat de défiance à l'égard de leur politique. Viendra le temps où on fera le débriefing de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est que la France, qui a eu l'un des confinements, par exemple, les plus drastiques en Europe, l'un des confinements les plus lourds, avec cette folle attestation qui n'a absolument ni queue ni tête, et on voit bien aujourd'hui que c'est encore n'importe quoi généralisé, s'agissant des cases à remplir sur les attestations.
L'attestation a 15 choix, mais qui a été supprimée,
il faut le dire. On voit bien. Ouais, enfin, il y a 15 choix, il y a 13 choix. Lorsque vous avez votre chien, c'est 1 km. Lorsque vous n'avez pas votre chien, c'est 10 km. Vous pouvez aller faire réparer vos chaussures, mais maintenant, vous ne pouvez plus les acheter.
Maintenant, c'est dedans avec les miens, dehors en citoyen.
Hein, oui, c'est le slogan. Et je veux dire, il y a quand même, au-delà des mensonges, il y a ce sentiment chez beaucoup de nos concitoyens qu'on les infantilise depuis le départ. Il y a ce sentiment extrêmement humiliant qu'on les prend pour des enfants, en leur expliquant dans un premier temps qu'il faut se confiner à la maison, ensuite qu'il faut se confiner dehors, qu'il ne faut pas se rassembler à plus de 6. On voit bien que tout ça est mélangé, est un quiproquo qui n'a ni queue ni tête. Donc nous prenons un peu de bon sens, un peu de raison et d'équilibre dans cette gestion sanitaire. Il faut rouvrir les petits commerces. Je vais vous donner un exemple très concret. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on explique à un commerçant qui vend des chaussures, par exemple, alors que le cordonnier est ouvert juste à côté de lui, qui est considéré, lui, comme première nécessité, qu'on va devoir fermer sa boutique, alors même que l'Institut Pasteur, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports qui ont été commandés par le gouvernement, nous dit que les petits commerces sont responsables de 0,07% des contaminations. Et on va ensuite aller expliquer, sur la base de ces données scientifiques, à des commerçants qu'on va leur fermer leur commerce, qu'on va les pénaliser pour rien. Vous allez, les Français comprennent pas que on puisse pas aller, par exemple, s'acheter une paire de chaussures, mais qu'on puisse aller J'entends se masser bien. Par dizaines mais dans le métro aux heures de pointe.
Vous dites, on infantilise les Français, mais
oui, je le crois.
Il y a l'exécutif, enfin Emmanuel Macron, refusé à une coercition. En quelque sorte, en n'enfermant pas tout le monde et en misant sur l'individualité, sur la responsabilité individuelle. Donc, est-ce qu'on peut critiquer à la fois de refuser cette coercition et dire « bon, allez vous aérer, on ne vous confine pas complètement, mais soyez raisonnable ».
Mais moi, je vois bien cette...
S'il avait confiné totalement, est-ce que vous ne diriez pas aujourd'hui, vous ne diriez pas les petits commerçants, les pauvres, etc. Vous auriez exactement le même discours.
Non, mais moi, je vois bien cette petite musique qui monte auprès de l'exécutif et qui consiste à faire croire que Emmanuel Macron est le président et que le gouvernement est un gouvernement de cohabitation sur lequel il n'aurait aucune prise, le gouvernement joue le méchant. Et puis lui, en fait, il joue le rôle du gentil. À chaque fois, il dit « moi, je ne voulais pas confiner, moi, je ne voulais pas mettre de couvre-feu ». La réalité, c'est que c'est lui le chef de guerre. C'est que c'est lui qui est à la tête du pays, c'est lui le chef de l'exécutif, c'est donc lui qui est responsable, qui est aussi responsable devant les Français. C'est lui qui impose un couvre-feu à 18h, dont tout le monde a bien compris que ce couvre-feu à 18h, il n'avait ni queue ni tête, qu'il entraînait probablement d'abord aucune efficacité sur l'épidémie. Dans les quelques départements où ça a été testé, on voit que c'est beaucoup plus mitigé que ça, et qu'en réalité, vous ne pouvez pas aller faire vos courses le soir en rentrant du travail, donc tout le monde y va le samedi matin, et résultat, les hypermarchés et les supermarchés sont bondés, premièrement. C'est lui qui impose la fermeture des petits commerces. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'on ferme les petits commerces, alors même qu'encore une fois, des rapports scientifiques nous expliquent que il n'y a pas plus de risque à transmettre ou à recevoir le virus dans les petits commerces. Et puis c'est eux qui, je veux dire, il y a quelques semaines, moi j'entendais encore Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, nous expliquer que probablement mi-avril, on allait revivre normalement. Voilà, le chef de l'État, il y a encore quelques mois, nous expliquait qu'à partir de maintenant, on allait privilégier l'économie et qu'on allait devoir vivre en partie avec. En réalité, on est dans une crise de la capacité hospitalière. Mon département, la Seine-Saint-Denis, c'est 1 600 000 habitants. Il y a 100 lits de réanimation. C'est ça un pays qu'on disait, pays développé, pays qui a la capacité, qui a un des meilleurs systèmes de santé au monde. Tout cela n'est pas vrai.
Ce débat a lieu partout, dans tous les pays du monde.
Oui, mais je vois qu'en Espagne, par exemple, j'ai vu qu'à Madrid, on avait, sur la centaine de jours de fin d'année 2020, on a pu ouvrir 1000 lits, 1000 nouvelles places de lits de réanimation. Nous avons aujourd'hui les mêmes capacités hospitalières que nous en avions il y a un an. Donc il y a effectivement un problème de souveraineté. Il y a un problème de bureaucratie qui est devenu obèse, trop lourd et qui contraint l'exécutif à des décisions qui sont insupportables et incompréhensibles pour beaucoup de gens. Et évidemment, un sentiment de deux poids, deux mesures et de gestion complètement arbitraire.
Pour en revenir au vaccin et au manque de doses, est-ce qu'il faudrait interdire les exportations de vaccins produits dans un pays de l'Union européenne vers un pays non membre de l'Union européenne ?
J'ai l'air de principe, oui, mais ça va être extrêmement compliqué de le faire pour la France, pour la simple et bonne raison que la France ne produit pas de vaccins. que l'usine de
Pfizer. Non, mais à l'échelle de l'Union européenne.
Que l'usine de
Pfizer. Par exemple, il y a des doses qui ont été exportées au Royaume-Uni, il y a des doses qui devaient être exportées en Australie. Voilà, c'est pour ça qu'il s'agit.
Ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, quand le président de la République, quand les Français entendent le président de la République expliquer qu'on va faire en sorte d'approvisionner notamment les pays africains peu développés en vaccins et que eux-mêmes, les Français, ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'il n'y a pas de doses, parce que les soignants n'en ont pas l'autorisation, notamment, je pense aux pharmaciens, même si ça a été rétabli il y a quelques jours. Et effectivement, c'est un sentiment de deux poids, deux mesures. Le véritable problème, c'est que nous ne produisons pas de vaccins et que des solutions, il y en a. Moi, j'ai entendu le gouvernement italien indiquer que l'Italie allait faire en sorte de produire sur son territoire le vaccin Sputnik, le vaccin russe. On s'est interdit, rendez-vous compte, par idéologie, par une espèce de russophobie qui n'a aucun intérêt, aucun sens.
Angela
aucun
Merkel intérêt. A dit qu'elle pourrait faire
Alors, si Mme Merkel l'a dit, je pense que M. Macron va suivre dans le quart d'heure. Donc, je suis très, très ravi, puisqu'on a vu d'ailleurs que sur le vaccin AstraZeneca, il n'y avait pas de problème du côté des autorités françaises. Et à partir du moment où Mme Merkel a indiqué que l'Allemagne allait le suspendre, M. Macron l'a suspendu un quart d'heure après. Donc, au moins, c'est clair. L'année prochaine, Marine Le Pen affrontera le vice-chancelier de Mme Merkel lors de l'élection présidentielle. Mais on voit bien que tout ça pose un problème de cohérence et que des solutions alternatives, on aurait dû en trouver. Voilà, moi, quand j'entends M. Breton, qui est commissaire européen, qui représente la France auprès de la Commission de Bruxelles, indiquer que non, pas du tout, on va pas du tout travailler avec le vaccin russe, alors même que tous les pays qui travaillent avec le vaccin russe ont des meilleurs résultats que
besoin.
Nous. Mais, enfin, je veux dire, mais c'est fou, on n'en a pas besoin. Mais alors, on fait quoi? L'Italie a décidé de se tourner vers Sputnik, la Hongrie a décidé de se tourner vers la Russie, la Pologne a décidé
c'est
de se tourner
vers la Chine. C'est quoi, c'est une défiance diplomatique envers Poutine?
C'est surtout une impuissance de la part de l'Union européenne. Voilà, et qu'en réalité, à chaque fois que l'Union européenne touche à quelque chose, force est de constater que c'est une catastrophe.
Bardella, ce dimanche, à Marseille, 6000 jeunes étaient dans la rue pour un carnaval organisé sans autorisation, sans masque, dansant. Et on a assisté le lendemain à un défilé d'indignation de la part des responsables politiques. J'ai écouté hier Marine Le Pen lors de sa conférence de presse. La question lui a été posée et elle n'a pas du tout condamné cette attitude de ces jeunes. Alors quand on sait, quand on connaît l'électorat de la droite, de votre parti, de l'extrême droite, je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais en tout cas du parti de Rassemblement national. Bref, en tout cas, c'est l'ordre et l'autorité. Comment se fait-il
non,
qu'elle
n'ait
pas
réagi à ça ? Non, mais
Est-ce que c'est une forme de clientélisme ?
Il y a un problème de deux poids, deux mesures. Oui, moi, j'en veux pas à des jeunes de 20, 25 ans de vouloir sortir, de vouloir se rassembler, de vouloir faire la fête. Mais il y a un problème de deux poids, deux mesures. Parce que lorsque, le même jour, on interdit une manifestation de policiers en hommage à une fonctionnaire de police qui a mis fin à ses jours, et on sait les conditions de plus en plus difficiles, particulières, dans lesquelles nos forces de l'ordre travaillent, mais qu'on autorise le même jour, une manifestation en région parisienne d'un collectif qui est proche d'Adama Traoré et qui prône la haine de la République, la haine de la France et la haine de l'institution policière. Vous croyez pas qu'il y a un deux poids, deux mesures? Donc, on voit bien que le respect du confinement, le respect des règles, c'est à géométrie variable. Monsieur Castaner, d'ailleurs, l'ancien ministre de l'Intérieur, il avait d'ailleurs déclaré, il y a certaines causes, parfois, certaines émotions qui dépassent le cadre de la loi. Eh bien, moi, je crois qu'on est tous égaux devant la loi, que cela pose un véritable problème de crédibilité de la part de l'État, et que, en réalité, l'État ne tient plus rien. Voilà, on est devant un État qui a failli, un État qui ne tient plus l'ordre dans les banlieues, un État qui est incapable aujourd'hui de ramener l'ordre dans des territoires où la police n'entre plus. Donc on voit bien qu'on est devant un État qui a failli, et je pense que l'un des principaux enjeux de l'élection présidentielle sera le rétablissement de l'ordre, le rétablissement de l'autorité de l'État, et Marine Le Pen aura en tout cas cette volonté, cette fermeté aux
responsabilités. Alors justement, Marine Le Pen sera, et d'ores et déjà d'ailleurs, candidate à l'élection présidentielle 2022. Qu'est-ce que la crise sanitaire va changer dans cette campagne ?
La crise sanitaire nous a appris à faire de la politique autrement.
Oui, mais je parle pas tellement techniquement.
Mais sur le fond, sur le fond, cette crise sanitaire que nous vivons depuis un an a, je crois, validé toutes les analyses que faisait le Rassemblement national. On voit bien que le fait d'avoir laissé se délocaliser pendant des années et des années nos filières les plus stratégiques, je vous rappelle que 95% de nos médicaments sont fabriqués en Chine, fait qu'on est totalement dépendant aujourd'hui de tous les autres pays de l'économie mondiale. Le refus de contrôler nos frontières pendant des mois et des mois a eu des conséquences sur la circulation de l'épidémie. On cite souvent un certain nombre de pays asiatiques comme modèle, on cite souvent la Nouvelle-Zélande, on cite souvent Taïwan ou Taïwan. Alors certes, qui sont des îles, mais les pays qui s'en sortent le mieux dans cette épidémie sont les pays qui, dès le début, ont maîtrisé leurs frontières. Souvenez-vous la condescendance avec lesquelles nous avons été traités par le gouvernement. Emmanuel Macron nous a dit le virus n'a pas de passeport. Lorsque nous demandions de suspendre les liaisons aériennes avec des pays où se diffusait l'épidémie, on nous a rayonné. Or, ces mesures ont été mises en place un an après, que de temps perdu. Donc, vous voyez bien que tout ce qui s'est passé durant cette crise, on réclamait par exemple pour nos entreprises des fonds propres directs, immédiatement, dès la fin du mois pour permettre à nos chefs d'entreprise de respirer. Ça n'a pas été fait. On a fait le PGE. Et je ne reviens pas là-dessus, mais on voit bien que le gouvernement y vient un an après. Donc, sur tous les sujets, en réalité, que nous avons vus depuis un an, c'est aussi vrai sur le séparatisme, sur l'assassinat de Samuel Paty, sur l'ordre dans les banlieues, que sur tous ces sujets, en réalité, eh bien, tout converge idéologiquement vers le Rassemblement national, et je m'en réjouis. Et effectivement, Marine Le Pen a eu raison avant tout le monde sur beaucoup de sujets, et je pense que les Français s'en rendent compte aujourd'hui.
La présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant, a reconnu organiser des réunions interdites aux Blancs. Vous venez de prononcer le mot séparatisme. Est-ce que vous considérez que c'est une forme de séparatisme ?
Je pense que l'UNEF est devenue une organisation d'extrême gauche qui a sombré dans l'islamo-gauchisme et qui assume aujourd'hui de pratiquer le racisme. Voilà, lorsque on organise, on assume, comme c'est le cas de la présidente il y a quelques jours chez vos confrères d'Europe 1, de l'UNEF, qui assume d'organiser des réunions interdites aux Blancs, mais c'est une forme de séparatisme et c'est objectivement du racisme. Et là, il n'y a pas de problème. Où sont les belles âmes de gauche qui luttent généralement pour les droits de l'homme, pour l'universalisme républicain, etc. Là, il n'y a pas de problème. Mais si nous, dans le sens contraire, on avait ce genre d'accusation à l'égard de telle ou telle communauté, tout le monde nous tomberait dessus, et à juste titre. Donc, on voit bien que ce qui sont les porte-drapeaux dans notre pays de la lutte soi-disant anti-racisme sont en réalité les réels racistes. Et c'est la raison pour laquelle je crois que beaucoup d'électeurs de gauche, qui se retrouvent aussi dans le projet républicain de défense de la laïcité que nous prenons, pourront parfaitement se retrouver sur le bulletin de vote Marine Le Pen au premier et au second tour de la prochaine élection présidentielle.
Ça n'est pas une marotte, mais je vais revenir un instant à la présidentielle. Il y a eu, il y a quelques semaines, une série de sondages qui donnaient Marine Le Pen au coude à coude avec Emmanuel Macron, il y en a eu trois exactement, avec Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que ces enquêtes d'opinion ont changé le regard qui est porté sur vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'adresse à vous différemment? Quand je dis vous, le parti, ses cadres, est-ce qu'on aperçoit, est-ce que vous sentez que les autres ont l'impression que quelque chose est en train de se passer?
Manifestement, quand on voit l'hystérie que provoquent ces sondages dans la classe politique et notamment aux côtés du gouvernement, je vous répondrai que oui. Ces sondages à 48%, 47%, 48%, ils nous obligent. Il nous oblige à travailler avec rigueur, avec exemplarité pour construire une grande alternance qui puisse succéder à Emmanuel Macron. Nous allons le faire avec des gens qui viennent de la droite,
qui viennent
de la gauche.
Oui, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous parler, qui ne vous parlent pas?
Mais nous discutons avec des gens même bien installés dans les milieux économiques, avec des gens qui sont bien placés aussi dans l'administration française et qui font le constat que notre arrivée au pouvoir, elle est crédible, elle est possible et qu'elle est envisageable dans quelques mois. Donc moi, je crois que nous allons gagner l'élection présidentielle pour à la fois servir le bien commun, rétablir l'autorité de l'État. Nous le ferons avec une union nationale, avec des gens qui viennent de tous les horizons politiques pour permettre à notre pays de se relever, de se protéger et aussi de se réarmer économiquement dans la mondialisation tout en protégeant notre peuple.
Alors, si je ne me trompe pas, l'émission est terminée.
Vous ne trompez pas, j'avais une autre question parce que vous serez peut-être le prochain président du Rassemblement national parce que...
Appel sur l'actualité. Prenez la parole. Vous souhaitez...